Salut les joueurs et salut les joueuses, nous sommes en octobre 2014 et vous écoutez le 60e épisode de Proxy Jeux. Je suis Olivier,
je suis Jérémy,
et nous allons vous parler de jeux de société.
Un merci particulier au Patreon, et notamment à Peggy Chasnet, à Jérémy, enfin c'est pas moi, à Ludurny, à Alexis Godefroy, à Vincent Vido, à Vincent tout court, à Ludy Boquet, à Bab, à Canevan et à Vincent.
Et ce soir, c'est le troisième, la troisième partie du numéro 60, et nous allons vous parler de jeux de rôle et surtout de Do It Yourself. Et on va commencer tout de suite avec Alexis et Guilain, qui nous parlent de prototypage et qui nous parlent aussi de Do It Yourself.
Bravo, et un petit peu d'actualité.
Bonjour les makers et bonjour les makeuses et bonjour Guilain.
Salut Alexis, salut à tous.
Salut à tous, aujourd'hui un épisode spécial puisqu'on va faire que de la technique moi et Guilain, puisque je vais vous parler de ma journée prototypage chez Matago et puis qu'on terminera avec des bases pour miniatures, mais avant ça, place aux news.
Oui, donc finalement c'est pas un épisode si spécial que ça, il y a quand même une section news. Bon, je vais aller assez vite, on vous avait parlé la dernière fois de pas mal de concours de design, et du coup depuis la dernière fois il y a le concours de design de jeu solo qui s'est terminé, donc je vous annonce les vainqueurs, puis je vais vous parler un petit peu en détail des deux premiers. Donc le vainqueur est un jeu qui s'appelle Supermarché de Ryan Mayus. Alors ça a un petit côté rigolo parce que c'est un nouveau designer, du coup il a aussi gagné dans la catégorie des Best New Designer. C'est assez rare, en général les gens qui se lancent pour la première fois, ben, ils ont les félicitations du jury, mais là il a gagné la première place avec un jeu qui, il est vrai, mérite clairement cette première place. Donc Supermarché, c'est un jeu de gestion de ressources et de gestion de risques, donc pour un joueur évidemment, qui doit se jouer en un peu plus d'une heure. Donc le principe est que vous allez gérer un supermarché, donc il y a plusieurs phases dans le jeu, une phase où vous allez acheter des ressources chez vos grossistes. Les prix de ces ressources varient d'une journée à l'autre, et évidemment vous allez du coup essayer de les acheter quand elles sont moins chères, mais vous avez déjà à ce moment-là une vision sur une partie de la clientèle et donc de ce qui va être demandé. Donc évidemment, il faut quand même faire en fonction de ça. Vous pouvez pas acheter trop de ressources parce que elles vont se périmer. Donc il y a toute une gestion vachement intéressante de la péremption des ressources, comme dans un supermarché forcément. Et vous pouvez pas non plus en acheter trop, en tout cas au début du jeu, parce que si votre compte en banque descend en dessous de moins 50, vous avez perdu. Donc au début on commence à zéro, on a le droit d'emprunter à la banque pour faire ses premiers achats, mais après on n'a pas le droit d'aller trop loin. Donc on fait cette première phase, on achète les ressources qu'on veut et on va les ranger dans notre stock. Et ensuite il va falloir mettre ces ressources dans les rayons du supermarché. Et là encore on a des choix à faire puisque on est limité en quantité de ressources totales qu'on va mettre dans les rayons. Donc encore une fois on va faire en fonction de les ressources dont on a beaucoup et qui vont bientôt se périmer, on va essayer de les mettre en rayon, et puis évidemment ce que nos consommateurs vont acheter ou ce qu'on pense qu'ils vont acheter, on va mettre ça en rayon aussi, sachant qu'une fois que les ressources elles sont mises en rayon, vous ne pouvez plus les remettre dans votre stock. C'est à ce moment là aussi que vous pouvez décider éventuellement de mettre une ressource en solde. Donc du coup ça va inciter les clients à en acheter plus. Donc c'est à double tranchant parce que s'ils en achètent plus et que vous en avez plus, ils sont pas contents. Et puis que ça se vend moins cher. Mais ça permet d'écouler des ressources typiquement qui vont être bientôt périmées. Ensuite arrive la phase de la clientèle. Donc là vous avez des cartes qui représentent les clients. Et il y a un système en fait avec un G, vous lancez 2d6. Et du coup, en fonction de la somme de ces 2d6, ça vous dit ce que le client va acheter. Et sur la carte du client, du coup, en voyant les probabilités, vous pouvez savoir à peu près ce que ce client il va vouloir acheter. Par exemple, si vous avez un client où on vous dit entre 4 et 10, il achète du pain, bon, il y a de très très fortes chances que ce client-là, il achète du pain. Alors après, quand vous lancez les dés, vous pouvez faire 12 et il va acheter du surgelé, mais globalement, vous avez quand même une bonne idée de ce qu'il va acheter. Quand un client commence à faire ses courses, il va jusqu'au bout. Alors après, il y a des petites subtilités, il peut avoir des coupons de réduction, ce qui fait qu'il va acheter autre chose finalement que ce qu'il avait prévu. Bon, il y a peut-être quelques petits trucs comme ça. Mais par contre, si à un moment donné, vous n'avez pas la ressource demandée par le client, il s'en va. Il laisse son caddie au milieu du supermarché, du coup, tout ce qu'il avait acheté, c'est perdu, tous les sous qu'il avait dépensés, ils sont perdus, et en plus, vous avez un malus parce qu'il s'en va mécontent. Donc ça, c'est vraiment le gros coup dur, la grosse contrainte du jeu, c'est ça, c'est que si jamais, à un moment donné, un client s'en va mécontent, c'est la galère. Du coup, pendant la phase de la clientèle, vous pouvez refaire une remise en stock de vos rayons. Alors ça a un coût parce qu'en fait pendant ce temps là vous servez pas un client, donc il y a un client qui s'en va, mais au moins il est pas mécontent, il a pas jeté à la poubelle la moitié de vos ressources quoi. Voilà, puis une fois que cette phase là de clientèle est terminée, il y a une petite phase d'entretien et on recommence: achat des ressources, mise en stock, mise en rayon, clientèle. Et donc le jeu se déroule comme ça sur 6 tours. Et le but du jeu, c'est évidemment de finir en positif au niveau pognon. Et puis ensuite, plus on a de pognon, et plus on est content de notre victoire, on va dire ça comme ça. Donc c'est un jeu qui est assez sympa. Il y a quand même du hasard avec les dés, mais qui est très fortement pondéré par le fait que on peut prédire quand même ce que les clients vont acheter. Je pense qu'il y a une très bonne rejouabilité parce que plus ça va et plus on va connaître les cartes clients qui sont amenées à sortir, les cartes grossistes aussi, et donc les prix, et savoir à quel moment acheter ou à quel moment ne pas acheter une ressource. Et ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que pendant la phase d'entretien, il y a toutes les ressources qui sont périmées qui partent à la poubelle. Et donc il y a cette gestion là des ressources qui se périment, c'est très bien fait, il y a des cases, dans chaque case on sait si la ressource elle va se périmer dans un tour, dans deux tours, dans trois tours. Au niveau du plateau de jeu, c'est super bien pensé parce qu'il y a quand même six types de ressources différentes et suivant le moment où vous les avez achetées, elles vont pas se périmer au même moment. Donc c'est assez étendu en termes de design, je pense que le mec il a dû cogiter un moment. Donc il a bien mérité sa première place, bravo à lui. Deuxième place, un jeu qui s'appelle Eleven Seas for One de David Harding. Alors c'est un jeu pareil pour un joueur forcément, qui se joue en 5 minutes. Le matériel c'est juste quelques cartes, il y en a 12. Et c'est un jeu qui est inspiré d'un autre jeu qui existe qui est Eleven Seas. Donc la thématique c'est de préparer le thé de 11h. Donc il faut mettre sur le chariot à thé, la petite tasse à thé, les petits sandwichs, les petits gâteaux, c'est super mignon. Enfin, c'est un thème qui plaira pas forcément à tout le monde, mais moi je trouve ça super joli. Donc là, Eleven Seas for One, c'est vraiment un pur casse-tête, c'est-à-dire que les cartes, elles se présentent au départ dans un certain ordre. Chaque carte a un pouvoir, et en gros, le but c'est d'utiliser les pouvoirs au mieux pour remettre les cartes dans le bon ordre. Sachant qu'évidemment, à chaque fois que vous utilisez un pouvoir, le tour de jeu avance. Et faut avoir fini de les remettre dans l'ordre avant la fin des 15 tours. Et ça se joue en 15 tours. C'est pas mal. C'est plutôt plus facile que ce qu'on a l'habitude dans les jeux solo. Mais vraiment, ça se joue en 5 minutes et on peut l'avoir dans sa poche pour y jouer un peu quand on veut. Donc moi, je trouve ça super sympa. Voilà, troisième place du concours, un jeu qui s'appelle Forest Sprite de Marc Di Stefano, que j'ai pas testé, donc je vous en parlerai pas plus. Mais en gros, c'est un jeu qui ressemble un petit peu à Pandémie. Voilà, c'est les joueurs se... Donc du coup, celui-là, il est pas que pour un joueur, il peut se jouer à plus de 1. Et en gros, les joueurs se promènent dans une forêt en essayant de répondre à différentes contraintes qui sont menées par le jeu. De ce que j'en ai vu, ça a l'air sympa, mais ça a l'air de ressembler pas mal à Pandémie, donc pas quelque chose de grandement nouveau. Donc voilà pour ce concours. Bien sûr, il y a plein d'autres jeux solo qui sont sortis, qu'il faut aussi aller voir. Et puis les autres concours de design, c'est vraiment la belle bonne source de jeux en print and play. Voilà, deuxième news rapidement parce que j'ai pas beaucoup plus d'infos. Je vous avais déjà parlé de Red Robin Games. Ce sont des gens qui éditent des jeux en print and play, mais qui les éditent pour de vrai, donc ils sont occupés d'éditer Chunky Fighters. Et là, ils vont s'occuper d'éditer un jeu qui s'appelle La Course de Rennes, dont on vous avait parlé lors de l'épisode sur le print and play avec les enfants. Donc c'est un jeu que moi j'aime beaucoup. J'ai pas noté les références, donc je suis désolé, je pourrais pas vous dire de quel auteur c'est. Mais c'est un jeu qui se joue en une vingtaine de minutes à partir de 6 ans ou 5 ans même, qui est assez sympa. Il y a pas mal de stratégie et un petit peu de chance, et c'est facile à comprendre pour les enfants, et c'est joli comme tout. Et j'ai juste vu des images de l'édition, et ça va vraiment être un beau jeu. Et donc ils ont lancé un crowdfunding sur KissKissBankBank. On vous mettra le lien éventuellement pour aller voir. Et puis quand j'en saurai plus, si j'en sais plus, je vous en dirai plus. Ouais, plus. Voilà, sur ce, j'ai pas plus de news, donc je vous laisse la place à Alexis pour nous parler de la suite, à moins que tu veuilles rebondir un petit peu sur ce qu'on a dit.
Non, bah à part que malheureusement le Kiss Kiss Bang Bang pour Course de Rennes sera terminé quand l'épisode sera publié, puisqu'on est le 1er octobre et qu'il sera publié aux alentours du 15 novembre. Donc voilà. Du coup, ce sera.
Mais enfin, pour moi, enfin, d'après ce que j'ai compris, ils font un crowdfunding, mais c'est pour lancer l'édition. Mais c'est un jeu qui sera disponible en boutique.
Ah oui, oui.
Je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, deuxième news dont je voulais vous parler, c'est une news qui concerne Robin Red Games. C'est un éditeur dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, qui a édité le jeu Chunky Fighters. Donc, c'est un éditeur qui s'intéresse un petit peu à ce qui se fait dans le milieu du print and play. Et là, ils vont éditer un jeu qui s'appelle La Course de Rennes, qui est un jeu de Rebecca Bissell. C'est une nana qui est assez active dans la communauté print and play sur Board Game Geek. C'est un jeu qui est sorti en 2010 à l'occasion d'un concours de design sur le thème de Noël. Et donc c'est un jeu à partir de 6 ans qui dure à peu près 20 minutes, une demi-heure, avec quand même pas mal de stratégie pour un enfant de 6 ans. Il faut bien prévoir, bien gérer sa main de cartes, etc. Bon, c'est un jeu qui est sympa, qui marche bien à la maison. On vous en avait parlé quand on a fait l'épisode sur le print and play avec les enfants. Et là, ils ont sorti donc un projet de crowdfunding sur KissKissBankBank pour financer la production du jeu. Bon, normalement c'est quand même un jeu que vous verrez en boutique, hein. Donc même si vous n'allez pas sur le projet KissKissBankBank, et dans tous les cas, de toute façon, le jeu reste disponible en print and play sur Board Game Geek. La différence, c'est que la version éditée par Robin Red Games est beaucoup plus jolie. Enfin, moi je la trouve vraiment très sympa en termes de design.
Non, mais c'est important d'ailleurs de le noter, parce qu'il y a des projets qui, passant en projet édité, ne sont plus disponibles en print and play.
Ouais, là c'est un choix de l'éditeur, hein. L'éditeur a décidé que, enfin en tout cas pour Chunky Fighters, ils avaient dit qu'il y a une telle communauté autour du jeu qu'on n'a pas du tout intérêt que ça s'arrête. Bon, la course de Rennes, il y a peut-être moins la communauté, mais à Yatre, ils ont une ligne directrice, ils la suivent, quoi. Voilà, bon, j'en ai fini pour les news pour l'instant, et donc je te laisse un petit peu la parole maintenant.
Et donc, en ce qui me concerne, je vais vous raconter ma journée chez Matago. Donc déjà, le contexte, ça faisait longtemps que j'avais dit qu'il fallait que j'aille voir un petit peu comment les éditeurs, les professionnels travaillaient. Parce que c'est vrai que nous, on fait du print and play, donc on fait des prototypes, enfin des jeux assimilés à des prototypes. Et du coup, j'étais curieux de savoir comment ils travaillaient, et je devais depuis très longtemps aller utiliser leur poinçonneuse. Et puis l'occasion s'est faite avec Aquasphere qui sortait, où on m'a gentiment proposé de faire le prototype, chose que j'ai encore plus gentiment acceptée. Et voilà donc pour la petite histoire. Donc je me suis rendu chez Matago, donc c'est à Paris, et en fait j'étais surpris, parce que c'est vrai que nous, adeptes du print and play, on a un matériel, une opulence de matériel. Enfin, moi j'ai une armoire complète de matériel, de pâte à modeler, de scalpel, plein de choses. Et en fait eux non, parce que c'est pas leur passion de faire des prototypes. En fait ils utilisent tout le temps les mêmes techniques. Alors une fois qu'ils ont trouvé ce qui leur convient, ils utilisent tout le temps ça. Et en termes de matériel, par exemple chez Matago, il n'y a pas forcément énormément de choses. Des dalles de lino adhésives, des feuilles autocollantes, du papier épais, une chose que je n'ai pas, une grosse imprimante couleur avec des couleurs bien vives, des ciseaux, des cutters, et juste un coffret de poinçons bohème, qui est une des choses que j'aimerais avoir, mais qui est hors de prix. Et voilà donc à peu près pour tout le matériel qu'ils ont, et avec ça ils font tous leurs prototypes.
C'est les poinçons pour faire les jetons ronds?
Ouais. En fait, c'est des mallettes avec des poinçons de différentes tailles. En fait, il y a un gros maillet sur lequel on clipse les poinçons et après on poinçonne.
Alors du coup, en fait, la version avec le manche, joli manche et tout, en effet, ça vaut une fortune. Par contre, moi, j'ai regardé juste un poinçon avec la tête en fer pour taper dessus avec un marteau. Tu t'en tires pour moins de 50 euros.
Oui.
Par contre, tu n'auras pas toutes les tailles, quoi. Bon, ouais, voilà. Après, pour nous, on s'en fout. On peut toujours redimensionner les images, quoi.
C'est l'option. Sauf pour ceux qui n'aiment pas bidouiller les fichiers. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, on va revenir un petit peu sur les techniques qu'on avait vues l'année dernière, parce que c'est aussi des techniques que j'avais pas forcément utilisées. Donc, par exemple, la dalle de lino, eux, ils s'embêtent pas, ils prennent des dalles de lino adhésives. Donc, c'est un petit peu plus cher, mais c'est vachement plus pratique à utiliser. Je m'en suis servi pour faire les plateaux. Alors là, attention, les dalles de lino adhésives, c'est un petit peu comme les feuilles autocollantes. Généralement, une fois que ça a touché, c'est collé, quoi. C'est pas repositionnable. Et c'est le seul gros problème de ce type de matériau. Mais par contre, sinon, c'est hyper pratique. Donc, comme au début, j'avais largement le temps de faire le prototype, je m'amusais à faire les pré-découpes au cutter des feuilles que j'avais collées pour pas déchirer, etc. Puis en fait, comme j'ai un peu trop pris mon temps, à la fin, j'ai découpé au ciseau sans pré-découpe au cutter. Et effectivement, il y a quelques petits endroits où ça s'arrache, donc c'est toujours bien de prédécouper au cutter ou au scalpel, là où on va recouper la dalle de lino. Et donc en termes de résultats, c'est toujours intéressant, parce que du coup c'est un matériel qui pèse, et ça fait du coup plus professionnel, enfin plus, voilà, c'est plus agréable à la manipulation, parce que j'avais fait un premier prototype juste en carton, enfin en papier même, et du coup tout s'ondulait, etc., c'était pas pratique, donc voilà, je vais aller leur refaire un beau prototype pour la Trick Track TV.
Par contre, moi j'avais remarqué avec les dalles de lino qu'elles avaient tendance à se courber un petit peu en leur centre. T'as pas eu ce problème là?
Alors après, moi je suis allé le faire il y a moins d'un mois. Il a tourné sur les salons et là normalement il sort pour Essen, donc de toute façon le prototype il dure que 2 mois. C'est ce que j'allais dire en fin de chronique, c'est qu'en fait ils ont pas du tout les mêmes objectifs que nous. Et du coup en fait c'est du prototype jetable. Enfin d'ailleurs ils ont pas de prototype chez eux parce que tout est jeté. Donc une fois que le jeu est édité, un prototype ça leur sert plus à rien, ça prend juste de la place. Donc éventuellement ils les donnent aux gens qui se signalent. voilà, et puis c'est tout, mais sinon ils les gardent pas. Deuxième chose, par exemple pour les cartes, là c'est tout simple, papier épais imprimé à l'imprimante laser, découpe au ciseau, voilà, il n'y a pas de matériel accessoire, la technique basique qui fait ses preuves, qui est parfois un peu plus longue, mais en même temps, s'ils font pas 20 prototypes par jour, c'est pas forcément gênant. Et puis pour les poinçons, donc comme je disais tout à l'heure, eux ils ont des poinçons avec différentes tailles, enfin un maillet avec les poinçons des différentes tailles qu'on clipse. Donc c'est vraiment super pratique. Alors il y a juste un petit truc, c'est que généralement les poinçons en fait sont faits pour faire des trous. Donc c'est dans un support, en fait on veut garder le support avec le trou et pas le trou en question. Parce qu'en fait le poinçon en soi a une forme un peu conique au niveau de la coupe. Et quand on poinçonne, en fait, si on veut garder les jetons, ils ont tendance à se plier un petit peu. Parce que du coup, la forme du cône de coupe pousse vers l'intérieur, au lieu de pousser vers l'extérieur. Puisque l'extérieur est bien droit, puisque c'est généralement le support qu'on garde, c'est le support troué. Donc voilà, mais bon, en même temps, c'est pas... comme on laisse pas le jeton pendant 2 heures dans le poinçon, c'est pas trop grave. Et par contre, c'est terriblement pratique, mais c'est terriblement bruyant. Donc voilà, comme Matago c'est dans un appartement d'immeuble, j'avais de la chance parce que je n'avais que 5 jetons à faire, parce que sinon c'était un peu embêtant. Donc voilà, donc du coup de cette expérience je retiendrai quoi? Qu'en fait les éditeurs ils font pas du tout la même chose que nous, parce que ils font pas de dépenses superflues, ça leur sert à rien d'avoir 200 feuilles de papier de couleurs différentes pour faire des dos de cartes de couleurs différentes, parce que l'objectif du prototype c'est permet de faire un test du jeu, de voir est-ce qu'il est intéressant à éditer ou pas, éventuellement de le faire tourner sur un salon ou en animation pour donner envie aux gens. Mais une fois que le prototype est édité, il part à la poubelle. Donc par exemple, quand j'y suis allé, il restait deux prototypes, il y avait Kemet et Cyclade Titan, et sinon tout le reste avait été jeté il y a pas très longtemps. J'avais hurlé à l'hérésie, mais voilà, ils avaient quand même tout jeté à la poubelle. Et puis tout au plus le prototype servira en présentation salon Trek TV. Donc ils ont des durées de vie très limitées. Donc par exemple ce que tu disais, les dalles de lino qui s'ondulent sur un prototype qui va durer au maximum 3 mois, c'est pas très problématique, sachant que même des fois ils s'embêtent pas et ils font des prototypes en papier, tout ce qu'il y a de plus simple. Quand c'est juste pour eux, ils ont même pas besoin que ce soit un prototype de bonne qualité. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant de se retrouver là, parce que finalement moi avec mon armoire gigantesque et tout mon matériel qui déborde de partout, que je n'arrive même plus à stocker, en fait on se rend compte que est-ce que tout ça est nécessaire. A priori non, mais en même temps bon, c'est un loisir, et du coup c'est vrai que voilà, je suis quand même content d'avoir mes scalpels rotatifs et autres gadgets de loisirs créatifs, même si je m'en sers pas si souvent que ça.
Ouais, puis enfin, moi j'amène souvent des jeux que j'ai fait moi dans des assos ou chez des copains ou autres, et t'es quand même content quand tu présentes un bel objet et puis t'as plaisir à jouer avec. Je comprends que ce soit pas du tout le même objectif pour un éditeur. À la limite, un auteur qui veut vendre son jeu à un éditeur va avoir intérêt à ce que le jeu soit un petit peu attirant, ouais. Même si les éditeurs ils sont de toute façon le professionnalisme de prendre du recul par rapport à ça. Un éditeur qui veut juste faire tourner son jeu sur les salons, à la limite il s'en fout si le jeu il faut que ce soit un petit peu agréable à jouer, comme tu disais, que le matériel ait un petit peu de poids dans les mains, des choses comme ça, mais c'est tout. Nous on a quand même pas comme tu dis le même objectif quoi, du tout.
Ah oui, parce que nous c'est plus pour garder et donc du coup avoir une longue longévité, alors que là j'ai récupéré la moitié des prototypes qu'il y avait, parce que eux de toute façon ça leur sert plus à rien, donc voilà.
Et voilà.
Et voilà, ça c'est le blanc, c'est le principe. Quand on n'écrit pas les transitions dans le pitch à chaque fois, on a des gros blancs, mais comme on les coupe à chaque fois, vous ne le savez pas. Mais celui-là, du coup, on le laissera peut-être pour que vous vous rendiez compte. Et du coup, sans transition aucune.
Sans transition aucune, avec... si tu vois, je vais t'en faire une transition. Moi.
Si, tu peux rebondir sur Kemet parce qu'il y a des figurines.
Non, j'allais rebondir sur le fait que tu as dit, eux, ils utilisent toujours la même technique. Ils ont trouvé une technique qui marche et voilà, ça leur va, ils font toujours comme ça. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai un des plaisirs, une des rigolades que j'ai, c'est d'essayer tout le temps des techniques différentes, même si c'est vrai que j'ai quelques petites techniques préférées. Là, justement, je vais vous raconter une anecdote et puis vous expliquer un peu tout ce qui m'est passé par la tête. Donc, pour faire des figurines pour des jeux, donc dans les jeux du commerce, en gros, en général, il y a deux types de pions. Soit vous avez des belles figurines sculptées en plastique, voire même peintes, soit vous avez juste des ronds en bois, assez rarement un petit jeton en carton épais qu'on met dans un support et qui va tenir verticalement, par exemple les monstres dans King of Tokyo, mais ça reste assez rare dans les jeux du commerce. Par contre c'est vrai que nous à la maison, faire des figurines sculptées, moi j'ai ni le matériel ni la compétence artistique ni les moyens de m'en faire imprimer moi-même, et du coup on arrive à un résultat assez joli quand on imprime donc un joli dessin sur un carton ou même une simple feuille plastifiée, ça se tient assez bien. Et du coup toute la difficulté elle est de trouver le bon support pour que cette fameuse figurine en carton ou en plastique tienne la route. Juste en diagonale en passant, je vous parle du jeu qui m'a amené à faire ça. C'est un jeu qui s'appelle Trove, qui est en cours de bêta test privé entre guillemets, qui est un jeu qui me paraît avoir un bel avenir. C'est un jeu de dungeon crawl asymétrique qui peut se jouer jusqu'à 4. Et quand on joue à 4, il y a un joueur qui joue le chevalier qui explore le donjon avec comme objectif de trouver le dragon et de lui péter sa tête. Un joueur qui joue les gobelins qui eux vont tomber sur le chevalier pour le faire chier pendant sa quête et dont le but c'est de tuer le chevalier. Un dragon qui se réveille d'un sommeil ancestral et dont le but c'est de s'échapper de la grotte. Et la grotte elle-même dont le but est juste de buter tout le monde. Et du coup, c'est un jeu qui marche vachement bien. Alors, il y a beaucoup de réglages encore à faire, mais il y a vraiment ce côté asymétrique qui marche très très bien. Et il y a un flow de certaines ressources, etc., qui est très bien géré. C'est ça bel avenir, à mon avis. On verra ce que ça donne. Mais donc, pour ce jeu, j'avais besoin d'un certain nombre de petites miniatures pour représenter le chevalier, le dragon, les gobelins, etc. Et l'auteur, qui a un joli coup de crayon, avait fourni les images. Donc il ne risquait plus qu'à trouver les supports. Là en l'occurrence j'avais imprimé ça sur du papier tout bête et j'avais collé sur du carton, carton qui fait un millimètre d'épaisseur à peu près. Donc un carton relativement fin mais qui se tient bien. Et donc j'ai utilisé tout un tas de techniques différentes et donc à la fin dans mon jeu tel que je le sors quand j'y joue avec des copains, en gros chaque miniature a un support différent. Alors j'ai commencé par celui dont j'avais le plus l'habitude, c'est les bouchons de bouteilles. Moi je consomme pas mal de lait à la maison avec les gamins et je récupère les bouchons. Donc là en gros il y a juste à vérifier que le bouchon il a pas des petits crans à l'intérieur. Moi mes bouchons de lait ils ont trois petits crans qui servent en fait à ouvrir la bouteille quand on la dévisse pour la première fois. Donc faut faire sauter ça au cutter. Ensuite, on met le bouchon vers le bas, on mesure sa largeur, et on va faire juste dans notre petit morceau de carton deux entailles au niveau des bords extérieurs du bouchon, et hop, le petit carton il vient se mettre dans le bouchon. Ça tient très bien, il faut évidemment choisir un bouchon à peu près à la bonne taille par rapport à son morceau de carton, mais ça va très bien. Bon, c'est pas super élégant, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut trouver des bouchons un peu de toutes les couleurs. Et du coup, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des jeux avec une miniature avec le bouchon bleu, une miniature avec le bouchon vert, etc. Donc ça marche très bien. Vous pouvez aussi essayer la technique inverse, c'est-à-dire que le bouchon, il est à l'endroit, entre guillemets, c'est-à-dire la partie lisse vers en haut. Et dans ce cas, il faut faire une entaille sur toute la largeur du bouchon et venir glisser votre carton dedans. Mais ça a un inconvénient, c'est que le bouchon, du coup, il faut pas mal l'entailler si votre carton est un peu épais et du coup il perd un peu de sa solidité, donc je préfère la technique bouchon retourné.
Bon, en plus à la limite c'est moyen de lester le fond, enfin parce que du coup ça fait un creux, mais il suffit de mettre un peu de fimo ou autre pour boucher, pour que ce soit éventuellement plus esthétique.
Ouais. Ou du ciment, ouais, tout à fait, ouais. Du coup, tu parles de fimo, je l'ai pas fait parce que je fais jamais de fimo, mais j'ai pensé, à un moment donné, je pensais le faire avec du ciment. On peut tout à fait imaginer de mouler un petit support comme ça. Tout ce qu'il faut penser, c'est de faire l'entaille à l'avance. Alors, le risque avec de la fimo ou du ciment, c'est que l'entaille, elle va être très statique. Si vous regardez les supports de miniatures, par exemple de King of Tokyo, il faut forcer un petit peu pour mettre le carton dedans, et c'est ce qui fait qu'après ça va tenir tout seul. Moi j'ai déjà eu des essais où en fait l'entaille elle est trop pile à la bonne taille, et du coup le morceau de carton il tient pas. Donc peut-être qu'avec la fimo ça irait bien pour lester quelque chose, mais peut-être pas pour faire un support juste.
Alors la fimo ça peut rester
soi,
aussi un petit peu souple puisque selon comment on la cuit. Enfin, moi je sais par exemple les cœurs que j'ai fait pour Love Letter, on peut un petit peu les plier, alors faut pas non plus forcer trop, mais ça peut quand même garder une certaine souplesse.
Donc ça peut être un truc à essayer quoi. Bon, deuxième technique, un petit peu dans le même état d'esprit, mais à laquelle j'avais pas pensé au départ, et finalement ça a un rendu assez sympa, c'est récupérer les rouleaux de papier alu. Les rouleaux en carton de papier alu ou de papier cello frais. Donc c'est un carton qui fait à peu près 2 cm de diamètre et qui est beaucoup plus costaud que du papier toilette. Là, vous prenez un rouleau comme ça, vous le tronçonnez, donc vous pouvez faire des tronçons qui font un petit peu plus d'un centimètre d'épaisseur. Du coup, dans un seul rouleau de papier alu, vous pouvez en faire une trentaine, quoi. Et là, pour le coup, c'est pareil. Soit vous découpez votre carton, vous faites deux entailles aux bonnes distances par rapport à votre diamètre de rouleau de papier, enfin de carton, pardon, ou alors, si vous voulez pas que votre carton y soit découpé, vous pouvez entamer le rouleau lui-même, faire une petite entaille et venir glisser votre carton dedans. Donc ça marche bien, pareil, ça tient très bien sur la table. C'est plus joli peut-être que le bouchon, parce que ça fait juste un petit support comme ça qui est assez simple. Donc finalement, et puis ça va prendre vraiment 30 secondes à faire, un coup de cutter pour tronçonner le truc, deux entailles et c'est fini quoi. Donc ça marche super bien, c'est simple. Dans le même état d'esprit, truc super bien qu'on peut récupérer, qui est simple, c'est les bouchons de liège. Alors le liège en soi, c'est pas terrible parce que ça a tendance à partir en miettes, ça fait des petites miettes. Mais par contre, les bouchons qui sont tant critiqués, l'espèce de bouchons en faux liège, en faux plastique, là, en liège synthétique, ben, eux, ils sont très lisses, très denses. Et du coup, pour faire ça, ils sont parfaits. C'est-à-dire que vraiment la matière, cette espèce de matière un peu bizarre, comme du liège mais en plus dense, c'est nickel. Donc là, dans un bouchon de bouteille, vous pouvez faire 4 supports. La difficulté, pour le coup, c'est un peu comme ce que je disais avec la Fimo, c'est que votre entaille, ça va pas être facile de la faire ni trop large ni trop épaisse, quoi. Moi, sur les 4 que j'ai fait, il y en a un où vraiment le carton ne tient pas parce que l'entaille elle est un poil trop large. Donc ça a la difficulté, mais bon, ceci dit, 1 sur 4 ça va, je pense qu'avec l'expérience on peut y arriver à faire mieux quoi. Je continue avec des trucs un peu classiques mais qui marchent très bien, le bois. Alors le bois, forcément, pour faire ça, c'est très noble entre guillemets comme matière. Moi j'ai des petits carrés en bois qui doivent faire 2,5 cm à peu près de côté. J'en ai plein que j'avais fait à une époque et régulièrement je les utilise. Donc là, bon, pour que ça soit joli, il faut bien le poncer, évidemment. Ensuite, avec une scie à onglet, vous faites une entaille au milieu. Là, pour le coup, moi, la largeur du trait de scie, c'était parfait. C'est-à-dire que le carton, il est un petit peu dur à mettre sur le support. Mais après, une fois qu'il y est, il n'en bouge plus. Là, le gros intérêt du bois, c'est que ça a une certaine lourdeur. Et que donc la miniature, après, quand vous l'avez dans la main, elle est vraiment agréable à manipuler. Ça tient bien à plat et tout, c'est nickel, quoi. Ça peut se peindre. Ce qui est pas mal aussi.
Puis éventuellement coller si jamais l'entaille est un tout petit peu trop grande, enfin selon si on a la place de stocker les.
Ouais, c'est ça, après c'est un problème de stockage, mais en effet, coller c'est bien, ouais. Bon, alors je vais vous parler de mon délire du moment quand j'ai fait ce jeu-là, puis après j'évoquerai d'autres techniques que j'ai pas utilisées. Donc là, mon délire du moment quand j'ai fait ce jeu-là, c'était une touche de clavier. Alors ça peut paraître totalement aberrant et totalement overgeek, mais c'est pas grave. Ça m'est en effet arrivé un jour, mon clavier au boulot il marchait plus. Je commençais à le démonter pour le nettoyer, comme je fais, parce que moi je suis comme ça, je nettoie, je remonte, etc. Et évidemment, mon responsable technique, il a débarqué dans mon bureau, il a dit « Qu'est-ce que tu fais? T'es con et tout, tu le jettes et t'en prends un autre. » Donc j'ai en effet jeté le clavier, mais j'ai récupéré toutes les touches du clavier. Donc dans mon fameux carton dont vous parlez Alexis tout à l'heure, on a nos papiers de toutes les couleurs, nos bouchons, nos récups et tout, ben, j'ai un clavier entier de petites touches. Et donc ben, je me suis dit ben, « Pourquoi pas, après tout, une touche de clavier, ça fait à peu près la bonne taille. » Sur le bas, c'est lisse, ça peut marcher. Donc j'ai dû un petit peu la bidouiller avec une pince, arracher des bouts, etc. Mais au final, je me suis retrouvé avec un support, donc évidemment la touche mise à l'envers, où il y avait juste un petit trait en plastique au milieu. Et donc j'ai juste fait une encoche au centre de mon carton, et le carton vient se glisser sur la touche de clavier, c'est parfait. Alors, c'est un peu léger, et mes cartons sont un peu grands, c'est-à-dire que là, moi, j'ai des figurines, les trucs en carton, ils font presque la taille d'une carte à jouer, quoi. Donc, pour le coup, la touche de clavier est vraiment trop petite. Mais peut-être que pour une miniature plus petite, ça peut être sympa. Et je pense que je réutiliserai l'idée pour un jeu où j'aurai des miniatures plus petites.
Faut que tu coules un socle en plomb.
Et ouais, ou encore une fois, je vais réutiliser du ciment ou un truc comme ça que j'ai là, des travaux de la maison et qui sert à rien. Voilà, alors après, autre technique que j'ai pas utilisée pour ce jeu-là, mais évidemment qui marche très bien, si vous avez accès à une scie à ruban, c'est pas tout le monde, mais bon, on sait jamais, vous pouvez découper dans un tasseau en bois des T, des pièces en forme de T. Et du coup, après, il suffit de venir coller sur les faces du T votre dessin. Et là, vous avez carrément votre miniature qui est qui est finie, belle, quoi. Je vous montrerai des photos de ce que j'ai fait, par exemple, pour le jeu Maquis ou pour le jeu Asking for Troubles. Voilà, ça fait vraiment, là, presque professionnel, entre guillemets, parce que le socle est intégré avec la figurine. Par contre, faire des thés comme ça dans un tasseau à la main, je suis pas sûr que ce soit facile. Ça doit se faire, hein, ça doit pouvoir se faire avec une scie à onglet, mais à mon avis, c'est assez compliqué. Avec du matériel par contre adapté, ça le fait sans problème, quoi. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Bon, évidemment, on peut les faire tout en papier, hein. Souvent d'ailleurs dans les fichiers PDF des jeux en print and play, les miniatures elles sont prévues pour être pliées directement en papier.
Oui, avec les petites pattes en croix qu'on emplie une d'un côté et les deux autres de l'autre.
Voilà, ou alors en forme de T, ou alors comme tu dis, avec une patte d'un côté ou une patte de l'autre. Ou alors des fois, ce qu'ils font, c'est t'as deux pattes de chaque côté que tu vas ramener vers le centre et qui vont se croiser. Et du coup, ta figurine, elle a une forme de triangle à la fin. Enfin, vous pouvez trouver toutes les techniques que vous voulez. Il y en a une qui me fait beaucoup rigoler aussi et que j'aime bien, c'est les petits, les fameux petits ronds en plastique qu'il y a sur les cintres dans les supermarchés.
Vous récupérez. Que t'as utilisé pour le jeu de foot.
Ouais, exactement. Voilà. Donc ça, vous récupérez dès que vous achetez des fringues. Et puis ça fait des bons supports aussi qui tiennent bien au carton, bon, qui sont un peu légers, mais pour des petites figurines, ça va bien. En tout cas, ce qui est sûr, la conclusion, si je devais en donner une, c'est qu'il faut expérimenter, il faut avoir l'œil ouvert, il faut regarder ce qu'il y a autour de vous un peu et vous dire, mais ce machin là, je suis sûr que je peux en faire quelque chose. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut tout récupérer tout le temps, mais ayez l'œil. Et si vous avez toujours un ou deux projets de jeu dans la tête et que vous avez l'œil ouvert, vous trouverez toujours des idées rigolotes de trucs pour votre jeu. Typiquement, moi, les ressources dans Asking for Troubles, il y a du minerai, bah, j'ai pris des cailloux. Voilà, le caillou pour représenter des minerais. Vous ne trouverez pas ça dans un jeu du commerce, à part Full Metal Planet, il y a je sais pas combien de temps que c'est sorti ce truc-là, où il y avait des cailloux. Mais c'est l'idée rigolote et c'est ce qui fait aussi que votre jeu il peut avoir un petit cachet, un petit truc personnel qui fait que quand vous le sortez, on va pas vous dire c'est quoi ton truc bricolé à la main, on va dire ah c'est rigolo ton truc bricolé à la main. Et ça a un côté sympa. Voilà, donc évidemment vous aurez sur l'article une photo de tout ça. N'hésitez pas à expérimenter, à faire des essais, vous trouverez toujours une idée rigolote à essayer. Et puis voilà.
Et du coup, pour conclure, je vais déjà remercier Matago parce que je l'ai pas fait tout à l'heure et que c'était vraiment sympathique de m'ouvrir leurs locaux et puis de voir un petit peu l'envers du décor. C'est toujours une curiosité qui ravit les passionnés. Et puis, comme on sait absolument pas de quoi on vous parlera la prochaine fois, on va conclure simplement par la phrase habituelle. Maintenant que vous savez quoi faire de vos 10 doigts, jouez bien.
Et je voulais vous parler, nous voulions vous parler de jeux de rôle. Alors d'abord, j'espère que Oltrey, la chronique de Siol et de Stéphane, une chronique à deux voix de du mois dernier, vous a bien plu. On va retrouver tout d'abord Siol qui nous parle des légendes de la garde.
Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Pour cette chronique, j'ai envie de vous parler d'un jeu de rôle sorti en juin 2014 et qui m'a vraiment bien plu. Ce jeu s'appelle Les légendes de la garde. Les légendes de la garde suivent les histoires de gardes qui patrouillent sur tous les territoires pour permettre à leur civilisation non pas de seulement survivre, mais vraiment de prospérer. La garde n'a aucune autorité dans les agglomérations, mais sa juridiction s'étend sur tous les territoires entre celles-ci. Les gardes doivent y faire face aux prédateurs, aux intempéries et à la nature sauvage. Leur plus grande difficulté ? Ce sont des souris. Et d'un coup, tout prend une autre dimension. Les légendes de la garde, Mouse Guard en VO, est à la base une bande dessinée écrite et illustrée par David Petersen. En français, il existe à ce jour 3 tomes qui ont été traduits et édités chez Gallimard Jeunesse. Cela dit, ne vous laissez pas prendre à cette classification. Elle est, à mon sens, avant tout due au fait que les héros sont des souris. Dans l'ensemble, c'est loin d'être gamin, ou alors dans le même sens que Star Wars et jeunesse, car on y voit des vaisseaux spatiaux et des sabres laser. Les légendes de la garde, c'est aussi désormais un jeu de rôle. Je dis désormais, mais c'est pour la version française. La version originale est sortie en 2011. Il a été écrit par Luc Crane et utilise une version de son système Burning Wheel. Footbridge a lancé un projet ululé pour traduire et éditer le jeu en français. Il est sorti dans les boutiques début juin 2014. Le jeu propose d'incarner ces gardes, ces souris qui combattent et meurent face aux serpents et autres furets pour que les autres souris puissent vivre tranquillement. Tout comme dans la BD, un des thèmes sous-jacents est le sacrifice individuel pour le bien du plus grand nombre. Les personnages sont définis par trois phrases qui ont toute leur importance. Tout d'abord vient la croyance. C'est la philosophie du garde, ce pourquoi il se bat, ce pourquoi il est dans la garde. Ce peut être assez terre-à-terre, comme la meilleure solution se trouve toujours à la pointe de mon épée, ou beaucoup plus philosophique, comme qu'importe l'ennemi pourvu qu'on ait la cause. L'instinct, lui, représente comment le personnage va réagir instinctivement. Ainsi, Saxon, qui est un guerrier fougueux, a tendance à toujours sortir mon épée au moindre signe de danger. Enfin, il y a aussi l'objectif. Il est défini par le joueur en début de chaque mission, une fois que l'objectif du groupe a été clairement établi. Il s'agit de l'objectif individuel du personnage, ce qu'il va chercher à faire au cours du scénario. Cela peut être une précision de l'objectif de la mission, ou simplement évoquer un à côté que le personnage va chercher à accomplir durant cette mission. Le système de résolution considère des obstacles et des conflits. Pour résoudre un obstacle, il faut utiliser la compétence appropriée. On lance alors autant de dés à 6 faces que la valeur de cette compétence. On peut se faire aider par ses compagnons, par ses savoirs ou par ses traits, ce qui nous rajoute des dés. Une fois les dés rassemblés, on les lance et on ne considère que les 4, 5 ou 6 qui sont des succès. Si le nombre de succès obtenus est supérieur à l'obstacle, le test est réussi. Sinon, il n'est pas forcément raté. Il peut être réussi, mais le MJ va décider de rajouter une complication. Par exemple, sur un test d'éclaireur raté pour suivre la piste d'un marchand, les personnages finissent par trouver sa carriole, mais le marchand a été dévoré par un serpent qu'ils vont maintenant devoir affronter. Ou alors, le MJ peut décider d'infliger un état au personnage, état qui va l'affaiblir pour les tests à venir. Les conflits sont résolus de façon un peu plus complexe. En effet, un conflit représente un grand moment, souvent un paroxysme du scénario, une scène finale, la bataille contre le grand méchant ou le débat de la dernière chance. Il ne faut donc pas juste le résoudre d'un coup de dé. Les participants à ce conflit sont organisés en équipes. Tout d'abord, chaque équipe, ce qui représente souvent le MJ contre les joueurs, va définir quel est son objectif pour ce conflit. Les objectifs des deux camps ne sont pas forcément opposés. S'ensuit un test de position qui utilisera une compétence dépendant du type de conflit. Une bataille utilisera combattant tandis qu'un débat utilisera plutôt négociateur. Le résultat de ce test donnera une position à chacune des équipes. L'équipe qui réussira à réduire à zéro la position adverse durant le conflit sera déclarée vainqueur de celui-ci. À chaque tour du conflit, les équipes vont choisir secrètement trois actions parmi les suivantes. Attaque, le but est de réduire la position adverse. Défense, le but est de raffermir sa position. Feinte, le but est de réduire sa position adverse comme pour l'attaque, sauf que si l'adversaire a choisi défense, celle-ci ne lui servira pas. Mais par contre, si on a choisi feinte et que l'autre a choisi une attaque, notre feinte ne fonctionnera pas. Enfin, le quatrième, manœuvre, dont le but est d'aider nos futurs jets ou de gêner les futurs jets de l'adversaire. Une fois les trois actions du tour choisies, on va comparer et résoudre une à une celles-ci. Les actions auront une efficacité qui dépendra de celle qu'a choisie l'adversaire. Si les deux ont choisi attaque, par exemple, ils infligeront chacun autant de succès que leur test à la position adverse. Et oui, on peut obtenir un 0-0 sur un conflit. Si par contre, l'un d'entre eux a choisi une attaque et l'autre équipe a choisi la défense, c'est un test en opposition. Et celui qui fera le plus de succès verra l'effet de son action s'appliquer dans la mesure de sa marge de réussite. Une fois la première action résolue, on s'occupe de la seconde et de la troisième. Puis on recommence un cycle de trois actions si aucune position n'a été réduite à zéro. Loin de casser le rythme de la fiction, ce système aide à amener des inscriptions qui vont dans le sens de l'action choisie et à décrire ainsi le déroulé du conflit. Par exemple, lors d'un conflit d'intimidation entre les gardes et le marchand soupçonné de traîtrise, les gardes ont joué une attaque, le marchand aussi. Les gardes le menacent physiquement tandis que lui joue sur leur fibre morale protestant que ce n'est pas ainsi que des gardes doivent se comporter. Dès qu'un camp réduit la position de l'autre à zéro, il est déclaré vainqueur. Son objectif, tel que défini au début du conflit, est gagner. Mais il peut toutefois y laisser quelques plumes. En effet, suivant comment la position du vainqueur a été réduite durant le conflit, il devra accepter plus ou moins de compromis. Ceux-ci peuvent être que le vaincu a pu remplir une partie de son objectif, ou alors que le vainqueur se voit affecté des états. À tout moment, avant un test, que ce soit contre un obstacle ou lors d'un conflit, un joueur peut décider d'utiliser ses propres traits contre lui-même. Il effectuera donc le test avec moins de dés et aura plus de chances d'échouer. Toutefois, la contrepartie sera de gagner des coches, chose qui sera très utile plus tard lors du tour des joueurs. Mais qu'est-ce qu'un tour de joueur au fait ? Une session est divisée en deux tours. Pour faire simple, pendant le tour du MJ, ce dernier met des bâtons dans le roue des joueurs, des obstacles et des conflits. Les joueurs, de leur côté, serrent les dents, lancent les dés en espérant que ça passe, et parfois acceptent de rater pour gagner de précieuses coches. Enfin, les personnages sont arrivés dans un lieu, ou alors à un moment, où ils peuvent souffler. Le MJ déclare alors le début du tour des joueurs. Il leur donne une coche gratuite à chacun. Avec chacune de ces coches, celles gratuites et celles qu'ils ont récoltées, les joueurs vont pouvoir initier une action. Celle-ci peut être simplement de quoi récupérer de leurs états, par exemple, initier une action de se reposer ou de trouver une auberge pour se restaurer. Mais ils peuvent aussi introduire dans la fiction de quoi faire avancer l'histoire dans leur sens. Ils peuvent très bien déclarer, en dépensant une coche, qu'ils vont voir par exemple l'archiviste de la cité qu'ils connaissent bien pour avoir les informations qu'ils recherchent. Les actions seront dépendantes d'un jet, tout comme pendant le tour du MJ, mais ce sont les joueurs qui ont la main pour décider quel jet ils vont faire, et tant qu'à faire, ils pourront choisir celle où ils ont des compétences fortes. Ce système où le joueur accepte de perdre pendant le tour du MJ pour être plus efficace ou plus souple pendant le tour des joueurs a le même effet que les récompenses d'interprétation des croyances, objectifs et instincts, à savoir inciter le joueur à mener de l'histoire et du rebondissement. En ce qui concerne le matériel de jeu, la fiche de personnage est agrémentée d'un tas d'aides de jeu sur chacune des catégories qu'elle présente. Ceci évite d'avoir à feuilleter le bouquin à la recherche des points de règles les plus courants, et c'est un bonus non négligeable pour la fluidité du jeu. On peut d'ailleurs télécharger la fiche de personnage sur le site officiel du jeu. Personnellement, j'ai fort bien accroché aux premières parties que j'ai menées. Outre l'univers et son ambiance que j'avais aimé à travers la BD et que je retrouve dans le jeu de rôle, le système permet vraiment de raconter de belles histoires de ces souris qui foncent face au danger, faisant fi de leur nature dans le but de protéger le plus grand nombre. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, jouez bien.
Et puis, en matière de jeux de rôle, je voulais vous parler. Alors, ça va être un épisode un peu court, puisque je ne sais pas si vous voulez nous en parler, Olivier, Johan.
Vous jouez encore au jeu de rôle ?
Non.
Bah, écoute, non. C'est le jeu de rôle, ça a ce problème un petit peu particulier. Que le si tu veux, dès que le groupe clash un peu plus ou moins, après t'as beaucoup de mal à relancer des parties. Puis bon, moi je suis resté vachement, je me suis vraiment pas penché sur les nouveaux jeux de rôle, quoi. Je suis vraiment
mais t'aurais pu avoir plaisir aux jeux anciens, quoi.
Mais ça, si tu veux, oui, ça m'a toujours titillé de recommencer à jouer. Après, si tu veux, les expériences que j'ai pour réinitier des potes, avant je jouais plutôt au début d'après-midi jusqu'à dans la nuit. Là, souvent, quand on réessaye, c'est surtout le soir. Et le temps de créer des persos, des machins, des trucs, tu veux, tout le monde.
Ouais, c'est pour ça que des fois, les jeux de rôle où t'as les persos prétirés, c'est.
Donc voilà, alors après, si tu veux, il y a peut-être quelque chose qui. Ce serait de trouver des jeux de rôle. Maintenant, ça se fait beaucoup aussi de faire des petits jeux de rôle comme ça, à la va-vite, avec des persos.
Et les trucs type Sherlock Holmes, t'as un petit jeu de Sherlock Holmes Detective Conseil ?
Non, j'ai jamais fait partie de Sherlock Holmes, ouais.
Non, parce que justement, t'as pas le personnage, t'as pas cet aspect-là narratif, mais t'as quand même un petit peu le côté, tu résous l'enquête, quoi, dans la série.
Ouais, ouais. Donc c'est vrai que moi c'est un truc, et le jeu de rôle, tout de même, ça reste ancré en moi, et c'est vraiment un jeu, c'est, pour moi c'est un des meilleurs jeux, quoi, tu vois, ça surpasse le jeu de plateau. Mais bon, ben voilà, après il faut avoir
la petite bombe là, j'ai comme ça là, à minuit.
Ça serait intéressant.
Pourquoi le jeu de rôle c'est mieux que le jeu de plateau?
Paf.
Non, sans argumentaire.
Pour rebondir, on a avec Olivier, on a un projet secret.
Ah, minuit, ça y est, les masques tombent.
Les langues se délient. Peut-être pour l'été 2015, on va s'y pencher dessus. C'est de faire un jeu de rôle grandeur nature, mais accessible à tout le monde, assez familial. En fait, c'est une espèce de chasse au trésor qui va se passer en Ardèche, donc avec une histoire et des énigmes. Voilà, sur 2-3 jours. Donc voilà, donc on est en train de réfléchir à ça.
C'est une histoire de. peu une chasse au trésor, quoi. T'imagines la chouette d'or simplifiée.
En simplifié, puis avec une garantie.
Si ça dure 20 ans, c'est compliqué. Ouais, c'est
avec une garantie de trouver quand même le trésor à la
non,
fin.
Non, mais quoi. C'est un truc qu'on aimerait développer pour faire découvrir le territoire aussi, développer en commun avec les autorités locales, on va dire, et pouvoir faire profiter un petit peu les gens qui ont envie de vivre une chasse au trésor à travers le patrimoine ardéchois pour commencer.
Ah, après, voilà.
Après on peut le faire sur Lyon, on peut le faire
Le faire avec les chasseurs urbains.
Il y a peut-être déjà des gens qui le font aussi.
Les chasseurs urbains, il faut remonter à la toute première saison de Proxy Jeux, on avait rencontré, et en fait c'est pareil, ils proposent des énigmes comme ça dans Lyon, très intéressant.
Ah ouais, mais c'est.
Et vous avez fait une super enquête pour Sherlock Holmes, pour faire gagner les Sherlock Holmes une fois. Il fallait faire attention aux petits détails.
Peut-être que ça pourrait être de déterrer un archéologien.
Ah, qui sait, ouais, pourquoi pas.
Et sur le do it yourself, juste parce que toi tu dois quand même faire des protos, on a vaguement évoqué que tu faisais les illustrations, mais comment tu fabriques tes protos, t'as des techniques que tu veux partager?
Bah écoute, moi je partage tout ce que je peux, de toute manière c'est du domaine public, mais ouais bah après moi j'ai mes techniques, je les avais développées sur le forum de Trick Track au niveau de la création d'Archéologia. Après j'essaie toujours de d'imaginer des manières de faire les choses, hein, alors que ce soit des moulages ou des machins, mais bon la plupart du temps je vais déjà regarder sur le net parce qu'il y a souvent des gens qui ont fait avant moi des trucs. Après effectivement moi j'adore partager, donc c'est vrai que les techniques que j'utilise après c'est pas des secrets non plus, mais c'est ce que tout le monde fait, du carton, des imprimeries,
dans l'épisode d'avant on a eu tout un débat d'ailleurs sur quel type de carton utiliser, entre le carton plume,
J'utilise le carton, de calendrier.
Ouais, les cartons.
Après, maintenant j'ai plus de chance parce que maintenant j'ai accès au carton de cartonnerie.
Bah oui.
D'ailleurs, j'invite les gens qui ont une cartonnerie à côté de chez eux d'aller les voir parce que il y a énormément de déchets qui tombent dans des bennes qui sont recyclés. Proto,
c'est pour Alexis.
C'est surtout des déchets, des coupes si tu veux. Il y a de la coupe. Qui permet d'avoir des carrés, qui permet d'avoir des boîtes, qui permet d'avoir des morceaux de carton épais déjà pré-taillés. Je veux dire, tu peux vraiment choper des tas de tuiles. Tu vois, par exemple, pour Archéologia, moi j'ai tout récupéré, tu vois. Donc, effectivement, c'est des. Tu vois, il y a des punchboards qui sont pas imprimés à certains endroits. Normalement, ça s'est voué à partir à la poubelle. Moi, je les ai récupérés. Mais ça te fait des carrés, donc ça te fait des tuiles vierges. Et ça, si tu demandes au cartonnier. Eh ben, ils t'en donnent relativement facilement, quoi. Après ça dépend, moi je parle de ma cartonnerie, mais
faut parler un peu le dialecte ardéchois et puis ça passe.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Un peu de pâte à couac et puis ça passe.
Oui, c'est ça.
Non mais bon, je pense que c'est une bonne pour choper du matos, du carton de base, c'est si t'as une cartonnerie pas loin de chez toi, c'est vraiment idéal, quoi.
Je sais pas, il faudrait que je regarde si des cartonneries sur la région.
D'ailleurs on aurait dû en
sinon c'est carton, cutter et tout. Bon après il y a des pour faire les ronds,
faire du proto,
ce qui est pas mal c'est pour faire les tokens ronds, tu prends un tuyau en fer que tu aiguises et puis avec un marteau tu fais un porte-pièce, quoi. Bon après voilà, c'est si t'as le matos chez toi pour tordre le fer, le souder et
à la forge.
Et forger, tu peux te faire des purs emporte-pièces.
Tout ça, c'est
mais bon, c'est sûr, si t'habites ici, bon, forcément, t'as pas l'atelier à côté.
Quoi. Je pourrais quand même, mais bon.
Non, mais rien qu'aller chercher, tu prends un bout de cuivre que tu ponces avec une petite lime, ça te fait des emporte-pièces.
Un tuyau de cuivre. Un petit tuyau.
Ouais, un petit tuyau, quoi. Un petit tuyau, quoi. Ouais. Tu vois de quoi je parle.
Ouais. Bon, alors, en fait, il y a eu une faille spatio-temporelle. On était en train de parler de drôle et on est revenu
sur le
prototypage.
Ça.
Mais ça fait rien.
Ouais, avec la magie du montage, tu peux retour remettre dans
la magie du montage. Parce que tu crois que c'est magique, c'est ça?
Oui, regarde, là, t'as un petit épisode. Regarde, on a enregistré quoi? 8 minutes sur celui-là, tu peux facilement découper le morceau et le mettre
ou pas, peut-être que ça sera pas.
Oui, ça se
sera pas. Et moi je voulais quand même, parce que c'est pas exemple, c'est un cocktail, c'est do it yourself et jeu de rôle. Je voulais quand même vous signaler que le jeu de rôle avait extrêmement évolué ces dernières années. Il y a plein de trucs à voir, il y a des jeux de rôle qui nécessitent beaucoup moins de préparation.
Ouais, non mais c'est clair.
Des jeux de rôle où t'arrives, où t'as la moitié, enfin où tu peux partir avec des prêts tirés et puis après laisser les joueurs faire le enfin être pas être responsable de l'histoire et puis être aussi à la base de la narration. C'est très intéressant.
Je sais vraiment pas du après, tout comment ça marche maintenant. Il y a toujours les points d'expérience, des trucs comme ça.
Après, ça dépend des jeux.
Ça dépend.
Ça dépend des jeux.
Ça dépend, mais c'est plutôt. Avant, t'avais vraiment AMJ et des joueurs, et là, la responsabilité de l'histoire, la responsabilité de la narration, elle est partagée. Donc, tu peux avoir des jeux de rôle où t'as pas vraiment d'AMJ. Donc c'est là, c'est plutôt là que ça se passe.
Tu contrôles plus tout.
Non mais c'est, il y a eu vraiment une évolution incroyable.
Ouais, voilà, non mais c'est je pareil, pense que dans le jeu de rôle, il y a eu pas mal d'évolutions. Il y avait des idées à trouver et qui ont été trouvées, et qui continuent à se développer. Après, moi, j'aimerais bien maintenant, tu vois, j'aimerais bien trouver des jeux, vraiment des jeux de plateau qui allient jeu de rôle, jeu de plateau. C'est pour ça que je me demande si je pense à Conan comme ça tout de suite, là, tu vois.
Je suis pas sûr, j'ai l'impression que c'est plutôt de la figue.
Ouais, c'est de la figurine. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même, tu sais, chaque personnage a des compétences et t'as de la fatigue, tu les gères un petit peu comme tu veux. Après, j'y ai pas joué, j'ai regardé comme ça, mais c'est vrai que c'est moi, j'aimerais bien pouvoir trouver un vrai mélange jeu de plateau,
ouais,
jeu de rôle,
d'épouvante, ce genre de truc.
C'est pas vraiment ouais, alors ça serait plutôt ça. Tu vas développer l'histoire en fait avec ton plateau et tu vas explorer le manoir ou tu vas explorer le donjon. Ça peut être du descente, ça peut être des choses comme ça, quoi.
Parce que ouais, pour le truc, c'est que c'est vrai que moi à l'époque où on jouait, c'est vrai qu'on avait le tableau Velleda avec les figurines, tu dessines le truc, quoi. Donc quelque part, t'es presque dans un jeu de plateau, sauf que t'as le MJ à côté, quoi. Mais,
ouais, c'est pas pareil quand même.
Non, c'est pas pareil, mais bon, c'est. Enfin bon, voilà.
Et donc je vous renvoie si vous avez vraiment si vous avez un peu de temps, comme si tu fais du prototypage c'est le moment de l'enregistrement où t'es un petit peu fatigué, puis là ça retombe, c'est un peu plus compliqué, si t'as un peu de temps pendant que tu fais ton boîtage, ta mise en boîte, je te conseille d'aller sur le blog de la cellule. C'est un malouin qui fait ça, qui s'appelle Romaric Briand, qui a une sorte de je sais pas comment ça, de groupement d'amis.
De groupies, tu veux dire?
Non, c'est pas ça. De communauté. Non seulement il présente des jeux, il teste des jeux de rôle, mais en plus il parle des mécaniques de jeux de rôle. Il parle de beaucoup de choses. Et il va encore plus loin et sort. Donc lui, c'est un garçon, bah, peut-être, tu vois, qui a fait. Peut-être le jeu qui est un pont entre le jeu de société et le jeu de rôle, qui s'appelle Le Val, qui se joue uniquement avec un jeu de cartes, et c'est un jeu narrativiste, c'est-à-dire que tu vas beaucoup parler et il y a une histoire qui va se construire autour du jeu de cartes. Donc lui, il voulait pas de jeu de cartes, tu sais, beau, il voulait pas que ce soit un objet, il voulait vraiment que ce soit le jeu et que ce soit l'expérience entre les deux personnes. C'est un jeu qui se joue à deux. Exclusivement. Et donc ils vendent juste un petit
jeu de rôle minimaliste en fait. Oui.
Mais c'est même pas, tu vois, c'est ni un jeu de rôle ni un jeu de société. C'est pas un jeu de cartes, c'est un jeu de rôle mais qui se base sur les cartes et l'association des cartes.
Et c'est quand tu vas voir Madame Irma.
Et c'est... De toute façon, et ça je devrais aussi l'enregistrer le lundi sans toi. Bref. Parce que monsieur n'écoute pas les podcasts de la cellule, c'est vraiment très intéressant.
Ah non, mais j'écoute pas d'autres podcasts que Proxy Jeux.
Donc il va sortir une extension pour Le Val, vous pouvez aller voir. Alors celui-lui, c'est aussi une expérience d'auto-édition, parce qu'il a décidé, peut-être un peu comme toi, mais pas vraiment, parce que c'est dans le jeu de rôle, de faire les choses tout seul. C'est-à-dire de limiter les intermédiaires, de distribuer tout seul, chose que toi tu ne peux pas faire mais que lui peut faire parce qu'il vend sur son site. Et il a une philosophie derrière son jeu qui est tout à fait particulière.
Ah, bah, je vais voir, tiens.
Et il a sorti également, il va sortir, enfin quand vous écouterez ce podcast, il aura sorti son livre. C'est un recueil d'articles qui s'appelle Le Maelstrom. Et puis alors il a un postulat qui est assez rigolo. Il dit que pour éviter que des ressources gratuites soient perdues sur Internet, eh ben il y a deux solutions. Soit c'est les mettre, c'est avoir un domaine, un nom de domaine, avoir un site qui vit et puis stocker les choses sur, mais faire vivre les choses sur Internet, ou alors deuxième chose, ben tu changes de format, tu changes de média et tu fais un livre. Et c'est ça qu'il a choisi de faire.
D'accord.
C'est à la fois donc ce recueil de d'articles, le jeu de rôle et métaphysique, le jeu de rôle et philosophie, joueurs, personnages et simulacres. Bon, tu vois, c'est la philosophie du jeu de rôle et c'est quand même quelque chose. Pour toi, je te le conseille pas. Enfin, pour vous, je vous le conseille pas. Pour les gens, non, parce que c'est. Remarque, il est quelqu'un de très particulier et il a lui aussi, il a étendu en fait, il a fait un article inédit qui s'appelle Le Maelstrom. Je te lis juste le pitch. Dans ce dernier article inédit, je développe mon concept de contenu fictionnel malléable. Je commence par montrer ce que nous, rôlistes, appelons fiction dans le cadre du jeu de rôle et. En fait, le fruit d'une illusion rétrospective. C'est-à-dire que ce que tu vas produire pendant la partie est indescriptible. Enfin, voilà, c'est une maelstrom. La fiction en jeu de rôle n'existe tout simplement pas. Donc, il a fait une interview, il a été interviewé par une jeune femme. Il dit on retrouvera les traces initiales de Sartre avec Simon dans mes réponses au questionnaire de Coralie. Et finalement, lorsqu'il y est même de fiction disparaît, on découvre une nouvelle définition de jeu de rôle, beaucoup plus en accord avec la pratique que nous en avons. Bref. Si vous êtes intéressé par ça, achetez son livre. C'est très intéressant. Ça va très loin, en fait, dans la philosophie du jeu de rôle, mais c'est très intéressant. Ça s'appelle Le Maelstrom. Ça se trouve sur le blog de la cellule. Il y a plein de choses à écouter. Il y a des choses qu'il faut laisser de côté, des choses qui sont très accessibles. Allez-y pour découvrir un petit peu le truc.
La cellule.
Le blog de la cellule. Remarque brillant. Et Flavie. Elle est folle, mais je l'adore.
Pour aller sur le chat,
voilà.
Tu vas par où en fait.
Cool, bah merci beaucoup pour tous ces petits commentaires.
On finit. C'est la fin de cette émission qui est destinée à vous parler de Do It Yourself et de jeux de rôle. Ça a été un petit peu mélangé cette fois-ci, un petit peu particulier avec les nouveautés de Romaric Briand. On vous dit la semaine prochaine, on va reparler de jeux de société avec Olivier Lafont et avec Johan. Et on parlera de Abyss avec une interview de Charles Chevalier et puis on va parler des jeux qu'on aime, des jeux qu'on apprécie, que ce soit sur la table ou sur iOS. Ça sera la semaine prochaine et en attendant, jouez bien.